L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Julie Guèze, la directrice de la philanthropie au sein du FSJU, le Fonds social juif unifié, depuis juin dernier. Une prise de poste au moment où la communauté juive est confrontée à la crise israélienne en lien avec le conflit et l'après 7 octobre et ses conséquences sociales. Julie Guèze, bonjour.
Bonjour Valérie.
Alors vous êtes issue du milieu privé de la banque, vous avez exercé pendant plus de 10 ans. L'engagement et le militantisme ont toujours fait partie de vous. Vous aviez créé une association pour venir en aide aux plus démunis de la communauté juive. Donc aujourd'hui, ce nouvel engagement en qualité de directrice de la philanthropie, c'est presque une suite logique.
Ah, c'est une suite plus que logique. D'abord, c'est une suite éducationnelle, puisque j'ai la chance d'avoir eu des parents qui ont toujours été très militants, qui nous ont transmis à ma sœur et moi ces valeurs fondamentales, c'est vrai. On a été élevés comme ça, baignés comme ça depuis notre plus tendre enfance. Et puis ensuite, il s'est transformé, il a évolué en étant dans des différents combats, en étant dans différentes manifestations, en accompagnant des projets divers et variés qui nous paraissaient essentiels quand on avait 18, puis 20 ans, puis en suivant. Entre-temps, j'ai effectivement un parcours bancaire dans un univers très privé de la banque privée américaine pendant plus de 10 ans, pendant 12 ans même plus spécifiquement. Et les aléas de la vie, des rencontres, la beauté des rencontres m'a menée à avoir un rabbin à Paris qui m'avait demandé à un moment donné si on pouvait se mettre avec un petit groupe d'amis un peu dégourdis à accompagner, à porter un certain nombre de familles en situation de précarité. C'était des notions très nouvelles pour moi, d'un point de vue très pratico-pratique. Et évidemment, j'ai accepté la tâche, et ça s'est transformé par le fait d'avoir porté pendant plus de 6 ans une très belle association parisienne qui existe toujours.
Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Aile de Cœur, et qui est d'ailleurs maintenant un programme subventionné, porté également par le Fonds social juif unifié. Donc c'est sympa, c'est une boucle, c'est une jolie boucle, c'est une belle avancée. C'était essentiellement sur des sujets relatifs à la précarité et à l'aide alimentaire, donc mission fondamentale du Fonds social juif unifié.
La banque, la mission philanthropique, enfin, il y a un lien assez évident. Les banques procèdent l'argent. Vous êtes aujourd'hui en charge d'en trouver pour mener à bien des programmes du Fonds social juif unifié. Il y avait un lien entre les deux. Alors, continuation de l'engagement, ça, on en parlait. Militantisme, un petit peu chevillé au cœur depuis votre plus tendre enfance. Mais aujourd'hui, ce lien entre la banque et la philanthropie.
Bah, en fait, je vais vous dire, on en parlait il y a quelques heures avec Laurent Gradvol. C'est un peu le même engagement. C'est-à-dire que c'est pas que c'est le même métier, mais d'abord, on a la chance de procéder à un métier qui a énormément de sens. Porter la philanthropie, ça veut dire donner du sens au don. Ça veut dire assurer une transparence, une explication, un pourquoi cet argent, il est absolument fondamental d'être collecté et ce à quoi il va servir. Alors, quand j'étais banquière, effectivement, on avait un discours qui était finalement pas si différent, c'est-à-dire on allait chercher des fonds pour financer des projets, alors pas philanthropiques, bien évidemment, je vais pas vous vendre que le milieu de l'univers bancaire avait une vocation philanthropique, je vous dirais des bêtises, même si parfois il y avait des projets économiques sociaux responsables, mais non, on était sur vraiment du financier pur. Alors c'est sûr que d'avoir eu le privilège que maître Ariel Goldman et Richard Roudier, le directeur général du Fonds social juif unifié, me demandent de reprendre la direction de la philanthropie, effectivement ça donne énormément de sens, ça fait se poser beaucoup de questions, ça fait se rendre compte d'abord que c'est pas facile de trouver de l'argent, on va dire les choses telles qu'elles sont. Les enjeux, ils sont tellement importants qu'on a une pression permanente qui nous oblige à aller toujours plus loin, hein, à relever ses manches et puis à prendre tout ce qui est possible de prendre, c'est-à-dire de se forcer à rencontrer des gens, de se forcer à présenter les actions du Fonds social, d'aller présenter ses missions sociales, éducatives, culturelles qui sont fondamentales. Et en fait, les enjeux sont tellement magnifiques et les réalisations associées sont tellement folles que finalement, on se dit que c'est le bon choix.
Alors, on va en parler. Le FSJU, comme son nom l'indique, est un organisme qui finance des projets en lien avec les priorités sociales, le lien social dans la communauté juive, mais aussi le rayonnement culturel, la pérennité de la vie juive, la mémoire, l'éducation et même la sécurité. Quel est votre, précisément, vous, votre rôle, votre mission au sein du FSJU, c'est de collecter, c'est d'utiliser cet argent au mieux, de définir et d'identifier les besoins?
Exactement. Alors, en fait, Je vais vous dire, quand je suis arrivée au Fonds social, on s'est dit directrice de la collecte. Alors, je trouvais que directrice de la collecte, ça manquait un peu de sens. Donc, on a réfléchi et j'ai dit effectivement directrice de la philanthropie. Parce que collecter pour collecter sans donner du sens, sans comprendre le pourquoi, sans réfléchir au programme, avoir la chance de travailler avec des professionnels qui ont une expertise comme Laurent ou comme le directeur du social ou comme le directeur de l'action jeunesse ou de la vie associative, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, effectivement, on collecte auprès de grands donateurs, auprès de fondations privées, auprès de diverses communautés, des écoles, enfin de tous ceux qui jouent le jeu de comprendre les enjeux et pourquoi est-ce que le Fonds social juif unifié est l'institution centrale en matière de solidarité de la communauté. Et ensuite, on explique et on retranscrit et surtout, on décide ce dans quoi on investit et on subventionne et on essaye de faire de notre mieux pour bien comprendre et pour répondre aux attentes des bénéficiaires. Parce que la priorité absolue du Fonds social juif unifié, ça reste, ça demeure, et ce sera toujours d'ailleurs, le bénéficiaire et le servir au mieux. Donc j'espère, je l'espère, qu'a priori, ça a l'air d'être le cas, tous ensemble et tout cet univers qui est très, voilà, très, très efficace et très, très opérationnel, permet de servir au mieux les bénéficiaires.
Alors on connaît les services, ici les services en lien direct avec les bénéficiaires, il y a Passerelle, le programme Noé, différents services culturels, la Tzedak Livre ici à Strasbourg précisément. On va parler, on va faire une aparté obligatoire en lien avec Israël aujourd'hui et après 7 octobre 2023. Est-ce que les besoins sociaux ont été exponentiels? Est-ce que vous avez eu, vous, besoin d'intervenir? Les besoins ont été augmentés. Comment est-ce que vous avez, vous, géré cet après 7 octobre?
D'abord, on a été confronté à l'urgence. L'urgence absolue qui était avant même que, mais propre à toutes les institutions européennes, c'est-à-dire avant même que l'État commence à se dire, je parle de l'État israélien évidemment, qu'est-ce qu'on fait de ces familles qu'il a fallu déplacer dans l'urgence, comment on agit et comment on se mobilise. Donc en quelques heures, il a été monté un fonds d'urgence Israël donc, qui au 31 décembre 2024, c'est-à-dire 15 mois après l'horreur du 7 octobre, a collecté plus de 12 millions d'euros. C'est un montant qui est extrêmement important, hein, qui est deux fois supérieur à l'ensemble. On collecte à peu près 6 millions d'euros qui est reversé au tissu associatif sur tous les sujets relatifs au social par an en France. Et on a collecté 12 millions. C'est ce qui a été subventionné, transféré, investi en Israël. Donc on dépasse les 50 millions de shekels.
Il y a eu un élan de générosité
sans précédent. Je vais vous dire, il y a eu un élan de solidarité sans précédent de la communauté, mais pas seulement. J'ai eu des grands donateurs non-juifs qui se sont sentis investis et qui se sont sentis une solidarité extraordinaire. Il y a eu un élan de générosité globale, nationale, qui nous a permis de collecter ces fonds à travers des donateurs privés et à travers aussi des grosses fondations juives et non-juives. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le souligner et de le remarquer. Et ça nous a permis effectivement d'agir dans un premier temps dans l'urgence auprès des familles déplacées sur place, bien évidemment. Alors, on a aidé énormément de familles à se déplacer dans le sud d'Israël et ensuite dans le nord d'Israël. Alors, pas vraiment en or, mais un petit peu au-dessus de Tel Aviv avec des gros programmes qui ont été menés. Mais pas seulement, il y a beaucoup de programmes qui ont été faits. On est le gros partenaire d'une structure associative qui est l'équivalent des Restos du Cœur en Israël, qui s'appelle La Tête, dont j'imagine vous avez l'occasion de parler ici, et qui représente à peu près 6 millions d'euros sur les 12 millions qui ont été versés. Ce sont des centaines de milliers de familles qui sont soutenues par cette structure qui est un peu notre bras, je ne vais pas dire bras armé parce que c'est pas un joli terme, mais notre bras droit sur place, et qui aide en matière d'aide alimentaire, de kits d'hygiène, de kits scolaires même d'ailleurs, puisque les enfants déplacés ont tout laissé, ont tout perdu, hein, donc il a bien fallu leur maintenir un accès à l'éducation. Et donc, il y a eu... Voilà, c'est vraiment le gros programme du Fonds social, c'est celui-ci. Mais quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on a beaucoup entendu parler, et vous également, j'en suis sûre, des sujets relatifs au post-trauma, à toutes ces jeunes, et ces moins jeunes d'ailleurs, qui ont été confrontés à l'horreur, qui ont vu l'horreur, et qui vivent l'horreur depuis le 7 octobre. Je ne parle même pas évidemment des familles d'otages. Et il a fallu prendre soin de ses enfants. Donc le Fonds social juif unifié, lors de ses différents voyages, et grâce aux partenaires que l'on a sur place, a signé des conventions de partenariat avec les municipalités du sud d'Israël, avec Sderot, Ofakim, Netivot, Beersheva. Et on accompagne aujourd'hui plus de 200 000 enfants sur l'ensemble du territoire israélien, sur des sujets très, très précis, c'est-à-dire sur de la détection. On accompagne ces enfants, on les fait rencontrer des psychologues scolaires, des thérapeutes, et on détecte les enfants qui sont en situation à risque. Et ensuite, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, c'est les coupes patronales, donc l'équivalent de la sécurité sociale israélienne, qui prend le relais. Et quand on apporte un enfant qui a été détecté à risque, pour lequel on sait que la situation parfois peut être dramatique, on a entendu beaucoup de cas de suicide et de situations horribles, alors il est pris en charge par les psychologues du pays et il est accompagné pendant des durées indéterminées. Donc ça, ça fait aussi partie des projets très importants qui ont été menés. C'est des projets qui dépassent 1,5 million d'euros de la part du Fonds social sur cette partie qui a été apportée. Tout ça mis bout à bout, parce que je peux vous en citer plein et il me faudrait plus que 20 minutes pour vous les raconter, puisque c'est 1,5 an de travail sur place. Effectivement, ça nous a permis de financer à hauteur de 12 millions en Israël. Et donc, on remercie infiniment les bienfaiteurs et les donateurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés depuis 15 mois.
Ça, c'était intéressant ce que vous disiez sur les donateurs non-juifs. Vous les avez sollicités ou il y a eu des contacts spontanés, ils sont venus vers vous ?
J'ai eu beaucoup de contacts spontanés. Et j'ai eu beaucoup de fondations privées qui nous ont contactés pour nous accompagner. D'abord, qui nous ont beaucoup interrogés pour comprendre. Voilà, avec un regard un peu extérieur, en nous disant, au-delà de ce qu'on lit dans la presse, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe concrètement sur place ? On sait que vous vous y rendez régulièrement, on sait que vous avez un bureau avec le FSJU Israël, évidemment, qui est très présent et très actif. Est-ce que vous pouvez... Voilà, donc on a pris ce temps d'explication, en essayant de rester le plus neutre possible, même si on a évidemment le cœur chevillé à Israël. Mais voilà, en expliquant de manière très, très, très transparente ce qu'on a vu, et d'ailleurs on a fait beaucoup de voyages, dont un qui nous a troublé le mot est très très faible, qui nous a brisé, j'ai envie de vous dire, pour toujours, puisqu'on s'est rendu en Israël quelques semaines après le 7 octobre. Et d'ailleurs, Richard Audier et Ariel Goldman y étaient même quelques jours après. Donc je vais vous passer l'horreur de ce qu'ils ont vu quand ils y sont allés. Et effectivement, le fait d'être sur place et de pouvoir expliquer ce que l'on en a vu, et de pouvoir expliquer ce qui s'est passé dans les kibbutz auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, auprès des personnes âgées, auprès des enfants, ce que signifie de tout perdre et d'avoir une population qui est déplacée, la détresse sociale, mentale, psychologique, la fin de l'accès à l'éducation, enfin tous ces sujets-là ont fait que effectivement ces fondations et ces donateurs privés qui ne sont pas nécessairement de la communauté ont été très désireux de nous rejoindre et d'ailleurs sur des montants tout à fait substantiels. Donc si certains nous écoutent là, j'en profite pour les remercier de nouveau.
Aujourd'hui, devant cet élan de générosité de la communauté juive, de la diaspora, mais vous le disiez aussi des fondations non-juives, civiles, qui se sont investies pour cet après 7 octobre, ça vous donne foi, ça rend l'humanité de vous dire qu'en fait, il y a eu quelque part un élan de générosité, et puis parce que dans les médias, Israël est souvent malmené, il y a quelque chose de compliqué à faire entendre à un grand nombre de la population française, de nombre de personnes, de jeunes aussi spécifiquement. Et ça, aujourd'hui, dans la communication, on a l'impression que la guerre de la communication, Israël a souvent plus de difficultés parce qu'elle est honnête et qu'elle ne va pas se servir ni de propagande ni d'images truquées. Mais est-ce que ça vous redonne foi, bien on sûr. Va dire, en l'humain, vous qui êtes dans une fondation philanthropique, ça prend tout son sens ?
Ça me redonne foi. Je vais vous dire qu'à chaque fois qu'une fondation non-juive m'appelle, tout de suite, vous vous doutez, on a 150 groupes WhatsApp, mais tout de suite, j'ai dit, mais je suis rassurée, je suis contente, ça me fait plaisir. Les questions qui sont posées, elles sont neutres. Il y a un intérêt réel de réparation de ce qui est en train de se passer et de sollicitation et de soutien qui redonne foi. Et au-delà de ça, on en parle souvent, et c'est d'ailleurs dommage, j'aurais dû en prendre avec moi, mais on a reçu énormément de courriers. D'ailleurs, c'est pas une question de montant de dons, nullement, c'est vraiment une question de
soutien.
Oui, c'est ça, d'appréciation et de compréhension et de soutien à la communauté juive et aussi aux juifs de la diaspora, puisque en fait, effectivement, les répercussions, elles ont été très lourdes. Nos jeunes enfants dans les universités ont été extrêmement malmenés, on peut en parler. Donc, on a reçu beaucoup de courriers de soutien. Et ça, c'est sûr que ça fait extrêmement plaisir. Et ça réconforte un peu. Alors, je ne vais pas vous dire que ça soigne tout, parce que les voyages en Israël successifs que l'on a vécu, et compte tenu du fait qu'on est très proche de certains kibbutz, notamment du kibbutz Kerem Shalom, qui est ce point de rencontre entre l'Égypte, Gaza et Israël, ou de Kfar Aza ou de Be'eri, ils nous laisseront abîmés à vie, c'est une certitude. Mais voilà, effectivement, il y a des petits points de réparation comme cela, en ayant eu affaire à ces gens que je remercie infiniment et qui témoignent de leur soutien à l'égard de la communauté juive, et c'est très précieux.
En qualité de fondation philanthropique, quel est votre lien, vous, avec les autorités françaises, au même titre qu'une autre fondation ?
Alors, C'est intéressant comme question parce qu'il faut savoir que le Fonds social juif unifié est le trésorier du plus grand syndicat en matière de structure et de syndicats relatifs aux ONG, aux organisations non gouvernementales. Ce syndicat s'appelle le syndicat France Générosité et on est effectivement trésorier de cette structure, ce qui signifie que les autorités et ce syndicat qui est extrêmement important en France et qui a vraiment un rôle de lobbying très fort, reconnaît le travail qui est fait, l'exemplarité, la transparence. C'est très compliqué d'être membre du syndicat France Générosité parce qu'il faut répondre à plus de 90 attentes. Donc je vous avoue que quand les personnes qui se sont chargées de ce dossier l'ont reçu, on s'est dit waouh. Alors là, il y en a pour des jours et des jours et des mois de travail. Elles s'y sont attelées, on les a pris point par point. Et quand on a été homologué, validé, attesté et labellisé de cette capacité à faire partie de ce syndicat et ensuite d'avoir ce qu'on appelle le label IDEAS, on en a été extrêmement fiers. Donc c'est une vraie reconnaissance auprès des pouvoirs publics. Ça témoigne de l'exemplarité du travail qui est mené par le Fonds social juif unifié. Et surtout, ça témoigne aussi, je ne sais pas si on va en parler, mais je suis très souvent sollicitée par des donateurs qui me disent « Julie, je suis ennuyée, j'ai financé telle ou telle structure, je suis inquiète d'avoir un contrôle ou je me rends compte que peut-être qu'effectivement, c'était un peu tangent parce que beaucoup de choses se sont faites depuis le 7 octobre. Encore une fois, tout s'est fait de bon cœur. Vraiment, tout a été fait de bon cœur. Tout cet élan de générosité s'est fait de bon cœur. Sauf que dans la réalité, ce qui prévaut, c'est quand même la loi du pays. Et ça implique de répondre à une exigence de contraintes fiscales, que ce soit en France ou d'ailleurs en Israël. Et le travail qui a été mené par le Fonds social de longue date, hein, puisque depuis très longtemps, on avait un peu obliger les associations partenaires à être très au fait des problématiques fiscales, à bien comprendre ce que ça voulait dire de transférer des fonds dans un pays tiers, que ce soit en Israël ou ailleurs, puisque je vous rappelle qu'on a été très très présents. Alors on n'a pas transféré de fonds en Ukraine, mais on a été très présents en matière d'aide et de secours humanitaire quand il y a eu la crise en Ukraine notamment. Ça veut dire qu'on doit bien comprendre les enjeux fiscaux et financiers avant de pouvoir procéder à un soutien à un pays tiers. Et comme on avait effectivement cette connaissance et ce savoir-faire, ça a participé à cette capacité d'être capable de récolter, de collecter énormément de fonds parce que les gens ont compris qu'ils étaient en tranquillité, en finançant et en soutenant et en témoignant leur confiance au Fonds social. Donc les rapports avec les pouvoirs publics, ils sont très bons. On est une structure qui est labellisée, on est une structure qui est reconnue, on est une structure qui est écoutée. On a la chance d'avoir un président, Maître Ariel Goldman, qui est vraiment le fervent représentant et ambassadeur de cette institution et qui le fait merveilleusement bien et qui, de par sa transparence et son éthique, porte haut les valeurs, je l'espère tout du moins, du Fonds social juif unifié.
Alors, on va revenir ici à Strasbourg, à votre venue aujourd'hui à Strasbourg et l'importance des délégations ici, dans les régions. Alors là, c'est la délégation Grand Est avec à sa tête Laurent Gradvol qui est avec nous en studio. Quelle est l'importance pour vous justement des délégations en région ?
Ah ben elles sont au moins aussi importantes que la délégation de Paris. On est toutes des délégations. Chacune mène un travail absolument remarquable. On a la chance d'avoir des présidents qui accompagnent ces délégations, qui sont des hommes et des femmes, des militants de très haut niveau et sans lesquels on ne pourrait rien faire, qui portent eux aussi les valeurs de cette maison, qui sont nos meilleurs ambassadeurs, qui, au-delà de la collecte, parce que bien sûr que c'est le nerf de la guerre, l'argent, et bien sûr que c'est grâce à ça qu'on arrive à financer les programmes, mais portent les programmes, en comprennent les attentes, sont les meilleurs interlocuteurs aussi auprès des personnalités politiques en région. Et donc, du coup, nous aident de manière indiscutable à porter et à rayonner et à être capable de développer tout le savoir-faire social, éducatif et culturel sur tout le territoire national. Paris ne serait rien sans les régions. Et donc, bien évidemment, on a besoin de travailler main dans la main. C'est pas une pyramide, c'est-à-dire que c'est pas Paris qui décide et qui impose. Bien au contraire, il y a énormément de projets sociaux. Vous parliez de la Tzedaklif tout à l'heure, mais la librairie sociale en est un autre exemple. C'est sûr que la librairie solidaire qui a été montée à Strasbourg a été vraiment une figure d'exemple pour les autres régions. Et d'ailleurs, ensuite, on est suivi une à Nice. Alors nous, on est à la traîne, hein, puisqu'on ne l'a toujours pas ouverte à Paris. C'est un drame. Voilà, donc on va s'y atteler très, très rapidement. On espérait pouvoir le faire cette année. Je vous avoue qu'on a eu d'autres urgences. Donc on va essayer de l'ouvrir pour 2025. Mais ce qui est intéressant de voir également, c'est qu'il y a des projets sociaux qui sont portés par les régions et qui ensuite, de par leur réussite et vraiment leur efficacité et leur efficience, sont à l'inverse, retranscrit et dupliqué, j'ai envie de dire, à Paris. Donc c'est donnant-donnant. C'est dans les deux sens, ça fonctionne plutôt bien.
Dans les campagnes d'appel à dons, on dit en général, alors je ramène ça à notre échelle sur Strasbourg, on dit souvent que Strasbourg et les donateurs sont plutôt généreux. Ça se vérifie, effectivement ?
Oui, ça se vérifie. Strasbourg, c'est un peu, voilà, c'est la délégation parfaite. Voilà, c'est vrai, c'est la délégation parfaite, Strasbourg. D'abord, il y a un militantisme éducationnel immédiat. Voilà, il y a moins de temps d'explication, d'obligation de je ne vais pas dire de convertir, mais d'expliquer ce que c'est que le sens de la philanthropie, pourquoi est-ce qu'il faut être engagé, pourquoi est-ce qu'il faut être un juif fidèle et actif dans son rôle dans la cité, et pas seulement d'ailleurs. C'est vrai que c'est très particulier Strasbourg, on les prend très régulièrement en exemple, même d'ailleurs très souvent pour Paris. C'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec la délégation strasbourgeoise, donc merci infiniment à tous les donateurs, à tous les bienfaiteurs, à tous les militants strasbourgeois qui nous permettent d'avancer vraiment à grande rapidité sur les travaux qui sont menés par le travail qui est mené par le Fonds social.
On va parler de la Tzedaka, l'opération de collecte de fonds qui vient de se terminer. Vous avez déjà un premier bilan à adresser avec desquels vous pouvez parler. Alors, on ne va pas rentrer dans les chiffres précis, mais peut-être une évolution par rapport à l'an dernier, et l'importance, évidemment, de ces dons. Alors, vous le disiez, en Israël, avec des besoins croissants, mais peut-être socialement, ici aussi, tout n'est pas rose.
Je vais vous dire, quand on a démarré la campagne de la Tzedaka avec l'ensemble des personnes en charge de la collecte, on était un peu inquiets. Parce qu'effectivement, on a levé beaucoup d'argent pour Israël. On s'est dit, il va y avoir un ralentissement évident. On ne va pas encore solliciter. En plus, la Tzedaka, elle arrive en fin d'année. Elle démarre le 15 novembre. Bon, on s'est dit, ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver les bons arguments, pour dire pourquoi est-ce qu'il est tellement important de soutenir la communauté juive en France et les programmes sociaux qui sont portés. Et finalement, ce qui est assez fou de dire, c'est qu'il y a eu 30% d'augmentation de donateurs sur la campagne entre 2023 et 2024. On a augmenté de 30% le nombre de donateurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'importance d'être un juif engagé dans la cité, dans les sujets qui sont les nôtres. Aujourd'hui, concrètement, chacun en région, depuis Paris, depuis Marseille, depuis Lyon, Nice, Strasbourg, Toulouse, peu importe, ça reste une priorité. Prendre soin de son prochain au bout de sa rue, ça reste une priorité. Je dis juif, mais c'est juif et non juif, parce que je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de programmes qui sont soutenus et financés par le Fonds social juif unifié, qui ont évidemment affaire à un public mixte, sans aucune différenciation de religion ou de quoi que ce soit, notamment sur tous les programmes relatifs à l'enfance. Et donc, du coup, on a été très satisfaits de ça. Ça en est suivi, effectivement, une hausse importante de la collecte, aussi de la campagne de la Tzedaka. Donc, je ne sais pas si on croise les doigts, si on touche du bois, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire, des incantations, je ne sais pas. Mais on va espérer que ce développement va continuer sur l'année 2025. Ça veut vraiment dire, encore une fois, qu'il y a une confiance qui est établie et qu'il y a une compréhension absolue de l'urgence des programmes, surtout en matière sociale, puisque bien évidemment, ça reste le cœur de nos préoccupations, même si je ne mets absolument pas de côté ni l'éducation, ni la culture, ni la jeunesse. Mais c'est vrai que l'urgence sociale a été telle que le tout à chacun a participé. On a augmenté le nombre de donateurs, on a augmenté la collecte de la Tzedaka. Et donc, on a pu subventionner un nombre très important d'associations et avoir de nouveau, on a près de 30 000 bénéficiaires en direct qui sont accompagnés chaque année. C'est quand même un nombre assez important, même très important. Et la campagne de la Tzedaka en fait grande partie. La campagne de la Tzedaka, elle soutient en un mois la moitié du budget du social au niveau national. Donc il faut bien se rendre compte de l'enjeu de cette campagne. Et voilà, on est content d'avoir dépassé les objectifs attendus.
Julie Guez, donc je rappelle, vous êtes directrice de la philanthropie au sein du FSJU. On va venir sur un plan un peu plus personnel. Vous, votre motivation, les projets que vous avez envie de porter, ce qui aujourd'hui vous motive, ou on voit que vous avez un grand sourire là aujourd'hui et vous porte encore dans tous ces projets que vous menez. Votre directrice, c'est un titre, mais au-delà, il y a certainement de l'engagement humain avant tout. C'est quoi pour vous exactement ?
Moi, j'ai toujours été très, très, très investie sur tous les sujets relatifs au social. Alors, ça tombe bien, on s'appelle le Fonds social juif unifié. Exact. J'ai envie de vous dire que, voilà, c'est bien tombé. Donc, tous les sujets relatifs à la précarité, les sujets relatifs à la protection de l'enfance, les sujets relatifs à la protection des femmes victimes de violences conjugales, à la protection des personnes en situation de handicap, parce qu'on est tous concernés par ce sujet, tous, en fait, je me rends compte, à chaque fois que je parle avec un donateur, on est tous concernés par ces sujets, forcément. Ça fait encore une fois que je vis pour cette institution, je vis pour cette mission, parce que je trouve qu'elle est exemplaire et qu'elle devrait être presque imposée. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec une donatrice de Marseille qui nous disait « Mais pourquoi vous ne l'imposez pas dans les écoles ?» de toute confession, j'entends pas nécessairement les écoles, mais pourquoi est-ce que cette notion d'engagement, cette notion de militantisme, elle n'est pas plus abordée et plus développée encore ? Alors, on connaît toutes les contraintes des structures juives qui ont des emplois du temps à rallonge, on a conscience de plein de choses, mais c'est vrai que j'ai eu la chance, encore une fois, d'abord probablement parce que mes parents m'ont toujours enseigné ça, et ensuite parce que, bah, j'en sais rien, peut-être que j'ai une volonté d'aider mon prochain un peu plus développé, je ne sais pas. Mais ça restera en tous les cas la grande mission professionnelle de ma vie, et qui est au-delà, bien évidemment au-delà du domaine professionnel, puisqu'elle occupe 100% de mon temps, et que mes enfants, qui sont maintenant des grands ados, qui baignent avec moi là-dedans, donc déjà quand ils étaient petits chez Elle de Cœur, mais plus encore au Fonds Social, m'accompagnent partout, sont présents dans les événements, parce que je trouve que c'est important de leur montrer ça aussi, sont présents quand on visite les associations. En Israël, cet été, on a fait énormément, énormément de bénévolat. Ils étaient avec moi le matin, même s'ils s'étaient couchés à 3 heures du matin la veille, parce qu'on les a laissés sortir. Mais à 7 heures du matin, ils étaient avec nous dans les kibbutz ou chez La Tête ou à faire plein de choses avec nous. Donc voilà, je pense que c'est un militantisme intrinsèque et que j'espère garder très, très longtemps, et qui m'a donné la force pour pouvoir continuer à accompagner, à faire partie de cette magnifique maison qui est le Fonds Social.
La relève est assurée. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Julie Guèze ?
De continuer à avoir l'énergie et la force nécessaires pour porter cette belle communauté qui est la nôtre.
C'est tout ce qu'on vous souhaite.
C'est
alors.
Très gentil. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.